Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission, un nouveau débat et un nouveau sujet que nous allons aborder avec vous, mais surtout avec nos deux invités, en ce samedi 30 juillet, diffusé depuis la capitale iranienne, Téhéran. En effet, depuis le début de la crise ukraino-russe, mais surtout après le sommet de Téhéran, lors duquel l'Iran et la Russie ont intensifié leurs relations et coopération dans divers domaines, il semblerait que la Russie est devenue un potentiel client des drones iraniens. Des informations et des sources russes affirment même l'achat d'au moins 300 drones iraniens par la Russie utilisés, qui auraient été utilisés dans la crise ukrainienne. Mais au 156e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux montre un drone kamikaze qui aurait détruit une base de contrôle du drone Bayraktar située près d'un village ukrainien. Alors, qu'en est-il des relations et des coopérations entre la Russie et l'Iran, mais surtout dans le domaine militaire, notamment après les pressions et les sanctions exercées par les États-Unis et leurs alliés contre l'Iran, mais aussi contre la Russie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder cet important sujet avec nos deux invités et avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Un drone kamikaze inconnu a lancé une attaque de précision et détruit le centre de contrôle des drones armés turcs Bayraktar TB2 en Ukraine. L'armée ukrainienne a perdu la capacité de contrôler efficacement au moins 3 véhicules aériens sans pilote sur de longues distances. Cela s'est produit après qu'un drone kamikaze a réussi à frapper la station relais du complexe de contrôle Bayraktar TB2. Cette opération intervient alors que le quotidien américain The New York Times vient de publier un article sur l'accélération des exportations de drones iraniens. Téhéran a discrètement intensifié la vente de technologies de drones à des pays en dehors du Moyen-Orient, alors qu'il cherche à devenir un acteur sur le marché international, a-t-on appris du journal américain The New York Times. L'Iran a fait des progrès constants dans la conception et la production de drones militaires ces dernières années et a intensifié leur transfert à des pays en dehors du Moyen-Orient. En d'autres termes, les efforts de l'Iran se sont maintenant étendus bien au-delà de la région. L'Iran cherche maintenant à renforcer son influence mondiale et à vendre des drones de plus en plus sophistiqués à d'autres pays, y compris ceux qui ont fait l'objet de diverses sanctions ces dernières années, comme le Venezuela et le Soudan. Selon les médias iraniens, les images satellites et les affirmations des experts à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran. Selon le journal américain, cela a fourni une source importante de fonds et d'influence politique à l'Iran, qui est lui-même sanctionné par l'Amérique. Maintenant, la Russie peut être un client potentiel des drones iraniens. Washington a déclaré ce mois-ci qu'il avait des informations selon lesquelles Moscou prévoyait d'acheter des centaines de drones à l'Iran pour renforcer son arsenal pour la guerre en Ukraine.
En effet, selon les dires et les informations relayées par même les médias occidentaux, la Russie est un potentiel client des drones iraniens et l'Iran cherche de son côté, bien sûr, à augmenter son influence, surtout militaire, dans le monde entier, non seulement dans la région. Alors, afin d'aborder ce sujet, nous avons deux invités, deux analystes avec nous. Habib Tawa, analyste des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris, et Luc Michel, géopoliticien, qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors, Monsieur Michel, je vous dis bonjour et merci d'être avec nous pour cette émission et ce débat. À votre avis, où en sont les relations militaires, surtout entre l'Iran et la Russie, et cette influence qui augmente de jour en jour, notamment après cette campagne de pression et de sanctions états-uniennes contre l'Iran, mais également contre la Russie. Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez, Luc Michel? Apparemment, Luc Michel ne nous entend pas. Est-ce que Michel, vous nous entendez? Alors, je pense qu'on a un petit problème avec notre connexion avec Bruxelles et Monsieur Michel. Donc, je me tourne vers vous, Monsieur Tawa, Habib Tawa, analyste des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. Alors, Monsieur Tawa, à votre avis, où en sont les relations militaires, surtout entre l'Iran et la Russie, notamment depuis la campagne de pression maximale exercée par les États-Unis, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre la Russie?
De toute façon, des relations entre deux pays peuvent avoir évidemment une certaine importance
Monsieur Tawa,
du point de vue militaire,
êtes-vous
mais c'est
avec
toujours
nous?
la conséquence d'accords politiques. Oui.
Voilà, je vous entends. Je viens de vous entendre. Je vous écoute, Monsieur Tawa.
Oui, je dis que les relations militaires ne sont que la conséquence des rapports politiques. Et les rapports politiques entre la Russie et l'Iran sont bons depuis plusieurs années. Et en conséquence, les relations militaires s'imposent. Qu'est-ce qui se passe dans le secret des dieux, comme on dit, c'est difficile de savoir. La version officielle ou bien officieuse dit que l'Iran vendrait des drones à la Russie pour une raison très simple, que la Russie disposerait de petits drones et qui ne sont pas des drones de combat, alors que l'Iran a fabriqué depuis plusieurs années déjà de gros drones. Donc, dans ce sens, on peut penser qu'il y a un échange possible en attendant que la Russie produise elle-même ce type de drone ou bien simplement contente de la production iranienne. Il est tout à fait concevable que ce manque qui existe chez les Russes peut être comblé par les Iraniens. Maintenant, ça, c'est la surface des choses. Dans la réalité, est-ce qu'il y a d'autres échanges? Il y a, comme on dit, quelque chose qui cache encore plus, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ce qui se dit. Et ceci aurait une explication très simple. Ils sont tous les deux agressés par les mêmes, et donc ils se défendent ensemble.
Merci pour vos explications, Monsieur Tawa. Restez avec nous, s'il vous plaît. Je pense que notre connexion a été rétablie avec Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends parfaitement.
Très bien, merci
Mais c'était
beaucoup.
déjà le cas avant.
D'accord, je pense qu'il y avait un problème de notre côté alors. Merci d'être avec nous pour ce débat, Monsieur Michel. Alors, à votre avis, où en sont les coopérations militaires entre l'Iran et la Russie, mais surtout avec leur campagne de pression maximale, les États-Unis visaient surtout à affaiblir les capacités militaires des deux pays, aussi bien de l'Iran que de la Russie, notamment après la crise ukrainienne. Est-ce que les États-Unis ont vraiment réussi à affaiblir ce secteur dans les deux pays?
Non, les Américains sont en train d'échouer et l'axe militaire entre Téhéran et Moscou est en train de se renforcer. Téhéran n'est pas seulement l'allié de Moscou dans le domaine des drones, mais de l'aveu même des Américains, ils parlent de l'Iran comme de l'épée géopolitique de la Russie dans la guerre des sanctions et dans la guerre économique. C'est donc une alliance puissante. Les guerres modernes se révèlent de plus en plus dominées par une guerre des drones. Dans les trois précédentes confrontations, la première en Azerbaïdjan avait été dominée par le camp occidental, avec les drones fournis par la Turquie à l'Azerbaïdjan et à l'OTAN. Dans la seconde confrontation qui avait été l'Éthiopie, la fourniture de drones par l'Iran avait déjà changé la donne. Et aujourd'hui, dans la guerre ukrainienne, évidemment, la domination momentanée par les drones turcs Bayraktar est en train d'être battue en brèche par la fourniture à la Russie de drones iraniens. Ceci, les drones iraniens sont en train de changer, évidemment, la donne en Ukraine et de battre en brèche la domination par les drones Bayraktar turcs. Les drones turcs sont évidemment très importants pour l'OTAN et pour la Turquie puisqu'ils sont pilotés et fournis par une industrie qui est dans les mains du gendre d'Erdogan.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Restez avec nous. Alors, Monsieur Tawa, votre avis, si les informations s'avèrent vraies et que c'est si l'Iran aurait vendu vraiment des drones à la Russie, quelles en seront les conséquences pour l'axe occidental, donc notamment l'axe US-Israël-OTAN, en fait, à travers ce renforcement des relations diplomatiques, mais surtout militaires, entre l'Iran et la Russie?
L'axe occidental, comme vous dites, est en mauvaise passe aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine, parce que sur le champ de bataille, c'est un fait que les Russes ont réussi à contourner beaucoup des pièges préparés par les Occidentaux. Au niveau des armes, on n'allait pas rentrer dans les détails sur les javelines, par exemple, bien sûr les missiles fournis par les États-Unis, les canons César fournis par la France. Dans tous les cas, les Russes ont réussi à contourner les pièges qui leur étaient posés du point de vue technique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'armée ukrainienne est exsangue. Et donc, même si, je veux être réaliste, même s'il y a quelques drones Bayraktar, jusqu'ici, il ne semble pas qu'ils aient eu le rôle déterminant que l'on a vu en Azerbaïdjan, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la solidarité qui augmente de façon croissante entre la Russie et l'Iran est un fait que l'on peut constater partout et dans tous les domaines, que tous les deux sont victimes de boycottage, ce qu'on appelle les sanctions. Ce n'est pas le terme de sanctions, il faut qu'il y ait un maître et un élève. C'est du boycottage qui est fait par les Occidentaux contre l'Iran et contre la Russie. Donc il y a une communauté de destin qui s'est dessinée et qui ne peut que prendre de l'importance dans la mesure où les Occidentaux ne veulent pas relâcher la tension et n'arrivent pas à s'imposer. C'est assez paradoxal ce qui se passe. Je pense que sur le terrain, champ de bataille, il y aura des échanges de plus en plus accentués entre les Russes et les Iraniens pour se protéger et même pour aller de l'avant. On voit bien que la Russie a été attaquée en Ukraine, a réagi. On voit très bien que l'Iran, dans le Golfe Persique et en mer d'Oman, a réussi à clouer le bec aux Américains. On ne voit plus les porte-avions américains s'approcher des côtes iraniennes. Ça aussi, c'est des faits dont on ne parle pas, mais qui indiquent tout un contexte général dans lequel ces deux pays passent de la défense à la contre-attaque. Et si ce n'est à l'attaque. Aussi, j'espère et je souhaite que les choses continuent dans le même sens. Et il ne faut pas oublier qu'en second plan, nous avons la Chine qui, elle aussi, fait clan avec ces deux autres pays. Ah, voyons l'avenir.
Merci pour votre analyse, M. Tabar, restez avec nous. Alors, Luc Michel, à votre avis, est-ce que cette campagne de pression maximale, ces sanctions exercées par les États-Unis contre l'Iran et la Russie ont donné l'effet souhaité par les États-Unis ou alors ces sanctions ont donné l'effet inverse, puisqu'il semblerait que les coopérations se renforcent, les capacités militaires se renforcent et donc ça a tout l'effet inverse pour les États-Unis?
Ce sont les sanctions, c'est un boomerang pour les Occidentaux et les Américains. Il n'y a pas seulement l'axe Téhéran-Moscou qui se renforce, mais il s'étend aussi à l'Amérique latine avec Caracas qui est du côté de ce front des États sanctionnés. Et maintenant, les Américains sont dans une marche en avant vers le néant, puisqu'ils ont annoncé qu'ils veulent adopter des sanctions contre la Chine pour empêcher les achats de pétrole russe par la Chine. Ce sera évidemment une catastrophe pour les Américains, puisqu'ils vont placer les Chinois du côté des Iraniens, du côté des Russes et du côté des Vénézuéliens. Mais la supériorité des États sanctionnés, elle est en train de se dérouler dans le domaine technologique. Maintenant, les drones iraniens sont en train de l'emporter en Ukraine sur les drones turcs. Et il y a une seconde victoire technologique qui est celle des Russes maintenant, puisque les systèmes de missiles américains qui devaient remporter la supériorité technologique et changer la donne dans le Donbass, c'est l'inverse qui se développe. Les Russes ont en effet développé un système de hackage des systèmes missiles américains qui font que les missiles américains maintenant sont ciblés lors de leur lancement par les Russes qui les détruisent. On parle d'une centaine de systèmes de missiles américains qui ont été détruits au cours des derniers jours. Et donc, c'était également dans ce domaine une supériorité technologique de la Russie. L'axe de l'Est est en train de démontrer qu'il est supérieur technologiquement à l'axe occidental.
Merci Luc Michel pour votre analyse. Alors, Monsieur Tawab, à votre avis, est-ce qu'on pourrait dire que l'ère de l'unipolarité des États-Unis est terminée et qu'on est désormais face à un monde multipolaire?
Et ce qui est en voie, c'est certain. Et puis, il faut ajouter aussi, du point de vue militaire, le fait que les Occidentaux ont livré une grande partie de leurs réserves d'armes. À partir du moment où les Ukrainiens les ont utilisés ou les ont vendus, parce qu'on oublie qu'il y a une telle corruption en Ukraine qu'ils vendent les armes aux Russes, à partir de ce moment, tous les stocks d'armes occidentaux qui étaient des surplus, soi-disant, sont liquidés sur le front ukrainien. Il y a un affaiblissement du camp de l'OTAN. Ces armées-là ne sont plus capables de se renouveler, alors qu'en vis-à-vis, nous voyons très bien que les missiles calibre russe frappent avec une précision extraordinaire et que l'artillerie russe dispose d'un stock de munitions extrêmes qui lui permet de tirer en permanence sans jamais perdre la ligne de feu. Fait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que les Occidentaux ont voulu croire, la victoire est en train de changer de camp. Pareillement, pour les questions de livraison de pétrole et de gaz, les Américains ont été obligés d'accepter la livraison de pétrole russe, de nourriture russe, c'est-à-dire de blé, d'orge, d'engrais, etc., parce qu'ils n'ont plus les moyens. L'Union européenne prétend vouloir diminuer sa consommation de 15% en gaz. Ou comment va-t-elle survivre? Comme l'a dit un spécialiste, quand il y a eu la crise du corona en France, la France n'a perdu que 8% de sa consommation de gaz. Elle a consommé 8% de moins de gaz en 2022-2023. Or, aujourd'hui, on nous propose de baisser de 15%. Comment ces pays vont-ils survivre? Comment l'industrie allemande va-t-elle survivre à de telles privations? C'est facile de faire des discours, il faut passer aux actes. Et si Mme von der Leyen veut que les Européens fassent des sacrifices, qu'elle aille faire ses sacrifices sur le front ukrainien et en y allant elle-même avec le responsable des affaires étrangères européen.
Merci pour vos explications. Alors, Monsieur Michel, vous, comment interprétez-vous et comment analysez-vous la perspective de cette crise russo-ukrainienne, étant donné le rôle que jouent les États-Unis, le rôle destructif, bien sûr, que jouent les États-Unis dans cette affaire?
Mais l'Europe s'est fait piéger, non pas par la Russie, mais par les Américains eux-mêmes. L'un des buts de guerre des Américains, c'était d'épuiser géopolitiquement la Russie. Ils ont échoué, mais le second but des Américains, c'était de fracturer les économies européennes, et là, ils sont en train de réussir. Les Européens sont tombés dans le piège et maintenant, il y a l'hiver de la récession économique qui se présente. De plus, les Européens mettent des stratégies suicidaires qui prouvent qu'ils sont des inconscients. Par exemple, pour remplacer les livraisons russes, l'Union Européenne s'est adressée à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire qu'elle doit passer par un pipeline qui est entièrement dans les mains des Russes pour se faire livrer des livraisons d'hydrocarbures d'Azerbaïdjan. Hier, les pays de l'Union européenne ont dit qu'Ursula von der Leyen était en train de mener une politique suicidaire vis-à-vis des autres pays européens. La grande perdante de la guerre en Ukraine, c'est les pays de l'Union européenne.
Merci pour vos explications. Et à votre avis, Monsieur Tawa, Quelle est la perspective de cette crise ukraino-russe avec cette augmentation et ce renforcement des relations entre l'Iran et la Russie dans le domaine militaire et aussi l'affaiblissement de jour en jour des États-Unis? Vous l'avez bien mentionné, aussi bien dans le domaine militaire avec des milliers et des milliards de dollars dépensés dans cette crise, mais aussi cette crise énergétique qui touche non seulement les États-Unis, mais les pays européens qui sont bien forts, inquiets pour leurs sources énergétiques, surtout en hiver.
Je partage parfaitement l'analyse de M. Luc Michel qui a admirablement présenté la situation. On pourrait ajouter encore d'autres éléments sur les pays qui veulent se joindre aux BRICS, dont l'Iran, l'Argentine et le Brésil déjà, évidemment. Et on parle de l'Arabie Saoudite. Et de ce fait, il est clair que le camp occidental est en perte de vitesse, mais surtout, comme a dit le président Orban, le président hongrois, l'Europe a commencé à se tirer une balle dans la jambe, elle est en train de se tirer une balle dans la poitrine, ne pas dire dans le cœur. Mm-hmm. Et la seule explication qu'il y a, à part la sottise que présente M. Luc Michel, il y a surtout le fait qu'une grande partie des dirigeants européens sont des hauts commissaires américains en Europe. L'Europe a été réduite en servage par les États-Unis. Les pays européens sont des pays qui sont des vassaux des États-Unis. Et donc, évidemment, leur intérêt principal est de faire la politique américaine et non pas la politique européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran, comme on a pu le constater dans les négociations autour du nucléaire iranien, il faisait confiance aux Occidentaux, a vu que tant les Américains se sont retirés de l'accord, ils ont été contraints de facto de ne pas respecter l'accord qui avait été signé. Aujourd'hui, les négociations de Vienne, c'est une sorte de bavardage qui ne sert à rien. Les Américains, si véritablement ils voulaient revenir dans l'accord irano-occidental, ils se contenteraient d'appliquer les conditions de l'accord. Et s'ils ne le font pas, c'est que les Américains continuent la même politique de Trump contre l'Iran.
Merci, Monsieur Tawai. Et comme dernière question, Monsieur Michel, est-ce que cette crise ukrainienne et le soutien apporté par les États-Unis à l'Ukraine et le rôle destructif qu'ils jouent serait l'erreur de trop des États-Unis dans les affaires internationales et dans ses politiques internationales qui lui coûteraient très cher?
Les Américains sont en train de participer eux-mêmes, principalement avec leur guerre des sanctions, par la destruction de leur propre nouvel ordre mondial. C'est cela qu'il faut retenir de cette affaire. C'est une politique suicidaire et, vous savez, on a une expression française qui dit que en faisant un trou pour précipiter l'eau dedans, il faut faire attention de ne pas tomber dedans. C'est ce que les Américains ont fait. Dans une première phase, évidemment, ils ont rempli leur but de guerre, c'est-à-dire de mener une guerre en Ukraine avec la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien contre la Russie, et a mené une guerre contre la dernière usine européenne. Mais bien entendu, à long terme, ils sont perdants. Ils ont détruit leur nouvel ordre mondial. Et le but de guerre de la Russie, qui était de détruire ce nouvel ordre mondial, ils sont en train de réussir. Le principal aujourd'hui, la défaite américaine, c'est une défaite annoncée et la Russie va gagner la guerre en Ukraine, militairement contre l'Ukraine, économiquement contre les pays de l'Union européenne et les Américains. C'est cela qu'il faut retenir. Le principal perdant de cette affaire, évidemment, ce sont les Européens. Le grand géopoliticien autrichien, Jordi von Lausen, avait dit que la participation des politiciens atlantistes aux guerres américaines, c'était des guerres qui étaient menées contre les intérêts même des peuples européens. C'est cela qui est la vérité.
Merci beaucoup. Merci à Luc Michel, géopoliticien qui était avec nous depuis Bruxelles. Habib Tawa, analyste des questions internationales qui était avec nous depuis Paris. Mais merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir suivis pour cette émission, pour ce débat diffusé depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
À bientôt.